jour, de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation pour prendre notre envol en nous mettant dans la tête d'un oiseau, histoire d'approcher d'autres formes d'intelligence que la nôtre, stupéfiante et surtout plurielle. Bien loin des clichés de tête de linotte ou de cervelle d'oiseau dont on les a longtemps affublés, l'heure est venue de nous incliner devant la phénoménale intelligence des corneilles et autres corvidés qui, avec les perroquets, tiennent le haut du pavé, mais aussi de nous intéresser aux talents divers et cachés des oiseaux migrateurs, des pinsons et même des pigeons qui ont tous et toutes des capacités cognitives et sociales hallucinantes. Comme nous allons les découvrir avec nos invités, les éthologues, Gérard Leboucher, spécialiste du comportement des oiseaux, dont l'ouvrage « Dans la tête d'un oiseau » nous a inspiré cette émission, et le spécialiste des corneilles, Frédéric Giguet, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, l'homme qui bague les corneilles et qui leur a même dédié un guide touristique de Paris à la fin de son essai « Que vivent les corneilles ?» avec les meilleures adresses de frites. Bah oui, les corneilles raffolent des frites et ont aussi l'esprit de famille. Autour de la question « Comment se mettre dans la tête d'un oiseau ?» Bienvenue dans le chant des alouettes, des griffes musiciennes, des tourterelles turques et des corneilles parisiennes.
Il y a un truc qui s'appelle « Dans la tête des oiseaux », moi je trouve que c'est génial parce qu'on a longtemps pris les oiseaux pour des cons. Disons-le clairement, en oubliant d'aller voir comment leur système nerveux central était organisé. Typiquement, on a analysé, avec Paul Broca notamment, on a analysé les systèmes nerveux centraux des vertébrés à l'aune des fonctions qu'on connaissait chez l'humain. Comme les oiseaux sont fichus différemment, il n'y a pas de néocortex plissé comme nous on l'a, l'encéphale est très ramassée, certes, il y a une économie de masse dans le cerveau des oiseaux. Alors du coup, on les a pris un petit peu pour des sous-développés, alors qu'en fait, c'est une question d'architecture, enfin, si je peux, entre guillemets. C'est-à-dire que leurs neurones sont beaucoup moins dépensiers en axones, les axones sont plus courts, tout est plus ramassé, tout est plus condensé. Les oiseaux ont subi une contrainte sélective de diminution de masse en rapport avec l'adaptation au vol. Le cerveau est compact. Ça ne veut pas dire qu'il fait moins de choses. Il est juste compact, quoi. Il est organisé différemment. Et donc, la masse du cerveau n'a pas beaucoup de rapport, en fait, avec les capacités cognitives des bestioles. Et oui, dans la tête d'un oiseau, c'est pas mal de réhabiliter un peu l'intelligence des oiseaux.
Bonjour Gérard Leboucher.
Bonjour.
Bonjour Frédéric Giguet.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être en direct avec nous pour faire plus encore que réhabiliter l'intelligence des oiseaux, comme nous y invitait à l'instant le professeur Guillaume Lecointre, votre confrère, au Muséum National d'Histoire Naturelle, Frédéric Giguet, en commençant par nous mettre dans la tête, dans la peau d'une corneille, comme celle, Frédéric, que vous suivez, pistez, balisez, baguez, étudiez dans tous les jardins de Paris où elles ont élu domicile. C'est en vous mettant en quelque sorte, Frédéric Giguet, dans la tête de ces oiseaux, si mal aimés et si exceptionnellement futés, intelligents, que vous réussissez à mieux comprendre leur déplacement, leur migration, leur évolution, leur comportement parfaitement adapté aux grandes villes. Ils sont chez eux à Paris, elles sont chez elles, les corneilles.
Elles ont toujours été chez elles et c'est un peu l'homme qui a agrandi les surfaces couvertes par ses habitations et les corneilles qui ont réussi à se maintenir dans cet espace urbain, voire même depuis le début des années 2000, à profiter énormément de la nouvelle gestion des poubelles avec des sacs transparents pour éviter que les poubelles abritent des explosifs, plan Vigipirate, et donc du coup un accès visible à de la nourriture que les gens jettent dans ces poubelles et que les corneilles cherchent et mangent.
Et les corneilles, elles sont même capables elles deviennent un peu folles, quoi. Elles sont très attirées par certains sachets avec la marque du gros M, c'est ça, parce qu'elles aiment les frites.
Elles ont compris que dans certains emballages, il y aurait de quoi manger des choses qu'elles aiment beaucoup, qui ne sont pas forcément bonnes pour leur santé. Parce que régulièrement, quand je retrouve des corneilles un peu moribondes ou mal en point, qui finissent par mourir et qu'on fait des autopsies, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui ont un foie surdimensionné.
Elles mangent trop de frites.
Elles mangent trop de produits transformés.
Alors, il n'y a pas que les corneilles qui soient chez elles, à Paris ou dans les grandes villes. Il n'y a pas que les corneilles et les corvidés en général qui nous stupéfient par leur intelligence. Il y a aussi, je l'ai dit, les perroquets. Mais il y en a aussi bien d'autres, n'est-ce pas, Gérard Le Boucher ? C'est en tout cas ce qu'on découvre dans votre ouvrage, Dans la tête d'un oiseau, paru aux éditions Humaine Science. Ouvrage passionnant dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, on y découvre ce que vous appelez, vous y tenez, hein, Gérard Le Boucher, l'intelligence plurielle des oiseaux.
Oui, en effet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une mesure unique de l'intelligence comme on aurait une sorte de QI pour les oiseaux, puisque en fonction des questions qu'on va poser aux oiseaux, on va trouver des réponses qui peuvent nous paraître un peu stupides. Ils n'ont pas réussi à trouver la solution au problème. Et puis si on pose la question un petit peu différemment, si on se met, justement, c'est là qu'il faut se mettre à l'intérieur de la tête des oiseaux, même si ce n'est pas réellement possible, mais aller au plus près, on s'aperçoit que si on pose des questions différemment, et si on pose des questions qui ont quelque chose à voir avec leur monde propre, la manière dont ils voient l'environnement, la manière dont ils perçoivent l'environnement, on peut avoir des réponses plus intéressantes. Et il y a des batteries de tests qui font que ça marche avec certains oiseaux, pas avec d'autres, et puis d'autres qui fonctionnent avec d'autres oiseaux et puis pas avec les premiers.
Je sais que vous aimez bien, Gérard Le Boucher, comment dire, pas les têtes de Turc, mais les mauvais garçons, les roublards, oui. Chez les oiseaux qui, par exemple.
Alors, pour parler de chez nous, les mésanges, par exemple, les mésanges charbonnières, peuvent émettre des cris d'alarme alors qu'il n'y a aucun prédateur. Évidemment, elles vont en émettre quand il y en a, mais également quand il n'y a aucun prédateur, de façon à avoir 5 minutes, même pas quelques secondes de paix sur la mangeoire, quand vous donnez à manger aux oiseaux, et elles peuvent aussi essayer de faire fuir les moineaux comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les mésanges, elles vont faire ça à partir seulement lorsqu'on a des individus qui sont dominants. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas les chasser d'un coup de bec. Et avec les individus subordonnés, elles les chassent tout simplement. Mais avec les individus dominants, elles essayent de les tromper.
C'est ça. Elles sont capables de tromperie, hein, d'alerter ouais. Alors qu'il n'y a pas de danger.
Voilà. Alors, il y a un maître hein, en tromperie, c'est un oiseau africain qui s'appelle le drongo brillant, qui lui est capable d'imiter une quarantaine de cris d'alarme d'autres espèces et qui donc en imitant ces cris d'alarme et puis en le faisant de manière flexible à un moment il va faire son propre cri d'alarme, après il va faire le cri d'alarme d'une autre espèce qui parvient à ce que les auditeurs ne s'habituent pas trop à ces alertes et donc que ça continue de marcher.
Les corneilles, vos corneilles, Frédéric Giguet, que vous baguez, c'est pas pour rien, pour comprendre comment elles se déplacent, elles s'alertent entre elles, évidemment qu'elles communiquent entre elles. C'est même pas une question, ça, mais comment ?
Alors, par les cris, alors quand vous dites mes corneilles, c'est vrai que oui, ça me gêne un petit peu. Les corneilles que j'étudie, et effectivement, elles communiquent. Je pense que l'illustration la plus flagrante, c'est ce que certains ont longtemps cru comme étant un rite funéraire. Quand une corneille est en danger, tuée par un prédateur, par un chasseur, et qu'elle fait partie d'un groupe, on a l'ensemble des individus qui vont venir à proximité, crier, s'approcher, produire des émissions sonores assez abominables, toutes de concert. Et on a pensé, par anthropomorphisme, qu'elles venaient saluer leur congénères qui venaient de mourir, que c'était une sorte de rite. En fait, a priori, c'est que ce sont certains oiseaux qui ont décelé ce danger, qui le constatent et qui communiquent avec les autres pour leur dire de venez voir à quoi ressemble cette situation très dangereuse qui a coûté la vie à un individu, pour apprendre de cette situation et ne pas se retrouver soi-même dans ce même type de danger. Et ça marche très bien avec Frédéric Giguet qui capture des corneilles.
C'est-à-dire avec vous.
Avec moi, qui suis reconnu par certains individus.
Elles s'alertent entre elles.
Et qui, quand j'arrive au Jardin des Plantes, celles qui me reconnaissent donnent l'alerte avec un cri très particulier, un cri assez aigu et monocorde, contrairement à un croa habituel de corneille. Et ça fait décoller tous les autres individus qui montent dans les arbres et qui doivent regarder ce que fait celui qui a donné l'alerte, qui le regarde et qu'est-ce qu'il fait.
Vous dites plein de choses là-dedans, parce que qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles se disent, les corneilles, si j'ose dire, quand elles vous voient arriver, vous qui les baguez, pour les relâcher ensuite, pour ensuite pouvoir suivre leur déplacement, leur vie de famille. Qu'est-ce qu'elles disent ? Attention danger, attention c'est Frédéric Giguet qui arrive, à votre avis.
Je n'en sais rien du tout. En tout cas, elles identifient une situation.
Et elles vous identifient.
Elles m'identifient, elles savent comment communiquer cette information aux autres oiseaux.
Autour de la question, pourquoi et comment se mettre dans la tête d'un oiseau? Parce que c'est bien ça votre démarche à tous les deux, Gérard Le Bouchet et Frédéric Giguet. Votre démarche est aussi, et ça c'est la même, c'est de nous apprendre à nous les humains comment cohabiter avec ces autres oiseaux si intelligents, qui vivent déjà avec nous. Plaidoyer pour une cohabitation responsable, c'est le sous-titre de votre ouvrage paru chez Actes Sud, Frédéric Giguet, Que vivent les corneilles. C'est aussi un signal d'alerte et d'alarme hein, de ce qu'on peut perdre en tuant les corneilles, qu'on considère comme invasives à la campagne, d'où l'idée que vous avez eue de mieux comprendre leurs déplacements, leur mode de vie, en les baguant, on l'a dit, pour mieux suivre la piste de ces corneilles parisiennes qui n'ont pas fini de nous en faire voir de toutes les couleurs. Vous êtes désormais soutenu et aidé, notamment au Jardin des Plantes, hein, à côté de votre muséum, parce que vous avez inventé un sort de filet à les baguer et à relâcher les corneilles. Vous êtes désormais aidé par des passionnés, amateurs et professionnels, et ça fait même l'objet d'une bande dessinée géniale, elle aussi, La Femme Corneille. Enquête sur le monde caché des oiseaux noirs aux éditions Futuropolis. La Femme Corneille s'appelle Marilyn T. Pamard. Elle est photographe, devenue cornelliste, comme elle dit, spécialiste des corneilles de Paris, qu'elle suit avec vous, Frédéric Giguet. Extrait d'un reportage réalisé par Didier Morel et Gilles Bezou sur France 3 en octobre dernier au Jardin des Plantes.
Bon alors, petite mémère.
EC 112, 947, 432 grammes.
Ouais, il est énorme en fait, j'ai 279. Oui.
Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Vous vous définissez comme cornelliste, vous observez les corneilles depuis plusieurs années maintenant. Certains les trouvent repoussantes, intrigantes. Vous, vous les appréciez, vous les étudiez. Qu'est-ce qui vous fascine chez elles?
Alors, c'est des oiseaux très intelligents qui ont chacune leur personnalité. Certaines sont timides, d'autres sont très téméraires, audacieuses. Et puis, c'est des oiseaux très, très amusants à observer. Elles cachent la nourriture, par exemple.
Elles peuvent avoir peur aussi.
Elles peuvent avoir peur. Je me demande si Frédéric n'est pas en train d'arriver, en fait. Parce qu'il fait peur aux corneilles. Hein.
Et voilà, on a la preuve in situ, Frédéric Giguet, que vous faites peur aux corneilles, qu'elles vous reconnaissent. Mais vous, vous avez reconnu la petite corneille qui était pesée. Vous dites que...
J'ai 279, c'est un oiseau assez particulier, j'en parle dans le livre.
Ouais.
Parce que j'explique que ce programme de recherche sur les corneilles à Paris depuis 8 ans, c'est aussi et en grande partie des rencontres avec des personnes comme Marilyn, des rencontres avec... beaucoup d'observateurs, d'acteurs de la ville, du monde rural, des agriculteurs, mais aussi des rencontres avec des oiseaux particuliers avec lesquels j'ai beaucoup appris en les étudiant parce qu'ils m'ont donné des clés de fonctionnement justement des corneilles. Et G279, c'est un jeune qui a été trouvé au sol, apporté en centre de soins, élevé donc en centre de soins, relâché au Jardin des Plantes. Et c'est le seul parmi, je dirais, une cinquantaine de jeunes comme ça, issus de centres de soins, qui a survécu et qui est toujours présent. C'est un énorme mâle qui, aujourd'hui, pèse plus de 530 grammes. Il porte
Il a bien pris depuis.
Il a bien grossi. Il porte une balise GPS depuis l'automne 2020. Et donc, je connais tous ses déplacements depuis ce moment-là. Il est au Jardin des Plantes. Il est allé une fois Gare de Lyon. Imaginez, il a traversé la Seine. Donc il est très casanier et il ne se reproduit pas, mais il fait partie d'un groupe d'immatures présents au Jardin des Plantes. C'est une des premières corneilles qui revient dans mon piège dès que j'y mets à manger.
Ah, donc elle ne va pas trop peur de vous. En tout cas, elle est je ne sais plus son numéro.
Mais G279, elle me reconnaît. Oui. Elle n'est pas contente quand je suis à proximité, mais elle ne s'enfuit pas à grande distance. Par contre, elle va s'envoler. Et une fois qu'elle est dans le piège, puisqu'à chaque fois je vais l'attraper à la main et la peser, là par contre c'est celle qui est la plus virulente avec mes doigts. Je repars à chaque fois avec... il faut que je protège mes doigts, que je fasse attention parce qu'elle va essayer de me pincer, de me piquer.
On y reviendra hein, parce que ces jeunes corneilles récupérées, élevées dans des centres, on y reviendra. C'est pas facile parce qu'il y a une vie de famille chez les corneilles et qu'elles n'ont pas eu cette vie de famille. Ça fait penser un peu à nos adolescents. On va y revenir, mais j'aimerais bien me tourner vers vous, Gérard Le Bouchet, en précisant tout de même que vous êtes professeur, Frédéric Giguet, au Muséum national d'histoire naturelle et que c'est vous qui coordonnez désormais à l'échelle nationale de la France le bagage de ces corneilles et que c'est pas un hasard si vous le coordonnez, c'est pour éviter Ces corneilles font des ravages dans les campagnes françaises. Elles vivent très bien dans les villes. Et c'est pour éviter qu'on les tue dans les campagnes françaises. Pour comprendre comment elles fonctionnent et qu'on peut limiter peut-être la population de corneilles sans les tuer. C'est ça, hein, en quelques mots.
C'est résumé. Disons que l'objectif n'est pas d'éviter qu'on les tue. L'objectif de la destruction de ces oiseaux, c'est de réduire les dégâts qu'ils font sur les cultures, par exemple. Et en fait, l'idée de ce programme, c'était comprendre le fonctionnement des populations de ces oiseaux pour, au final, démontrer que la destruction ne peut pas être efficace. Ce n'est pas parce qu'on tue des corneilles qu'il y en aura moins sur un champ, parce qu'elles bougent beaucoup au moment où il y a des dégâts. Et ce n'est pas parce qu'il y a moins de corneilles qu'il y aura moins de dégâts. Du coup, si on veut moins de dégâts, ce n'est pas en tuant 500 000 corneilles en France par an qu'on fera diminuer ces dégâts sur l'agriculture, d'autant que le coût des dégâts est bien moindre que le coût pour tuer 500 000 corneilles. Et du coup, il ne s'agit pas juste de dire ça et de dire arrêtons de les tuer, mais aussi de trouver des alternatives efficaces pour réduire ces dégâts sur les cultures. Et grâce aux corneilles parisiennes, à Marie-Lanne, à G279 et à d'autres, on fait des tests de répulsifs sur des semences de maïs, par exemple, en essayant de trouver une couleur que les oiseaux aiment moins, et ensuite en l'associant avec des goûts amers, particuliers, qui pourraient être particulièrement répulsifs et qui pourraient être ensuite généralisés dans les semis des cultures partout sur le continent.
Ce qui veut dire donc, et je peux me retourner vers vous Gérard Le Boucher, parce que ce qui est vrai pour les corneilles est vrai aussi pour d'autres oiseaux, que ces oiseaux ont de la mémoire, apprennent des choses, enfin peuvent apprendre des choses, les retenir, s'en rappeler, voient les couleurs. Enfin, ça nous ouvre quand même un monde énorme que celui d'intelligence, effectivement très plurielle et énorme.
Et avec un monde un peu différent du nôtre, puisque les passereaux, par exemple, voient les ultraviolets que ni vous ni moi ne sommes capables de voir. Donc, ils voient un monde un peu différent. Alors, on peut prendre des photos et puis mettre en évidence les ultraviolets, mais on ne vit pas en permanence dans un monde où on verrait les ultraviolets. Déjà, ça, c'est une grande différence. Et puis, effectivement, la mémoire, c'est important pour les oiseaux, ne serait-ce que pour se souvenir pour les oiseaux qui vont se reproduire et qui vont rester en couple pendant toute leur vie. Il faut bien se souvenir de qui est son conjoint, quand même.
Oui, parce qu'ils restent en couple.
Certains. Et puis, d'autres, au contraire, vont éviter peut-être certains congénères, etc., avec qui ils ont une mauvaise expérience. Donc la mémoire, la mémorisation des congénères, c'est quelque chose d'absolument important.
Et justement, je veux bien revenir là-dessus. Oui, Frédéric.
C'était pour compléter sur la perception de l'environnement par les oiseaux.
Oui.
On a parlé des ultraviolets. J'avais participé à une exposition temporaire au muséum qui s'appelait l'Odyssée sensorielle. On avait beaucoup travaillé, fait une salle sur la vue des oiseaux. Il y a des oiseaux qui voient la lumière de manière polarisée. C'est-à-dire qu'ils sont capables de savoir où est le soleil, d'où vient la lumière et où elle va. Pour s'orienter, ça peut être très utile.
Pour les migrateurs, par exemple.
Et on a aussi découvert récemment comment pouvait fonctionner la perception du champ magnétique par les oiseaux chez les rouges-gorges, où il y a, dans les cellules du fond de la rétine, des protéines qui s'orientent en fonction du champ magnétique. Donc il faut imaginer, évidemment, l'oiseau ne voit pas le champ magnétique, mais il a dans son œil des protéines qui prennent une certaine position et qui donnent au cerveau, sans doute, une indication de l'orientation du champ magnétique. Donc on comprend là, à travers ces trois exemples, que ce que voit le cerveau des oiseaux, de l'environnement, est complètement différent de ce que nous pouvons percevoir en tant qu'humains.
Ils sont dans un autre monde que le nôtre.
C'est pas complètement différent. C'est deux mondes qui s'interpénètrent, mais pas complètement. Et puis pour certains oiseaux, les oiseaux qui vont chasser, par exemple, les insectes, ils ont un taux de rafraîchissement, si vous voulez, de l'image, beaucoup plus rapide que le nôtre, qui fait que là où nous, on voit des... Quand, si vous essayez de suivre une mouche en train de voler, vous allez rater la plupart des trucs. Alors que si vous voulez regarder à peu près ce que voient les oiseaux, il faudrait prendre une caméra à haute définition, à haute vitesse, qui va prendre beaucoup plus d'images par seconde, et après le mettre au ralenti, vous aurez une idée de ce que voient les oiseaux les oiseaux insectivores notamment, quand ils recherchent des insectes.
Autour de la question, comment se mettre dans l'œil, dans la tête d'un oiseau, et même jusque dans ses rêves? Allez, on prête l'oreille aux rêves de l'oiseau, tel que l'interprète le maître de la cora guinéenne, Bassi Soko, sur RFI, le rêve de l'oiseau.
Atenção,
Oiseau Bassi Soko sur RFI. Autour de la question, comment se mettre dans la tête d'un oiseau ou essayer de le faire? Titre emprunté à l'ouvrage de notre invité Gérard Lebouchet, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, à l'esprit libre et ouvert comme les oiseaux, justement, même les plus mal aimés, comme les corneilles, les corbeaux, qui sont aussi les plus intelligents. Vive les corneilles! C'est le titre de votre plaidoyer paru chez Actes Sud, Frédéric Giguet, dans lequel vous partagez vos découvertes, vos recherches, l'exceptionnelle intelligence des corneilles et leur vie familiale insoupçonnée. Je vous propose donc de nous arrêter sur la vie des corneilles, la vie de famille des oiseaux, avec un autre éthologue passionné et passionnant, Luc-Alain Giraldo, auteur il y a quelques années, précisément on parlait de l'œil des oiseaux dans l'œil du pigeon, c'était le titre de son ouvrage. Il est aujourd'hui directeur de l'Institut scientifique national de la recherche scientifique au Québec. On l'écoute, Luc-Alain Giraldo sur RFI.
Si on regarde dans le monde animal, le groupe d'animaux où il y a le plus de soins paternels, c'est les oiseaux, et de loin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Parce que ce n'est pas tous les oiseaux, c'est les oiseaux qui mettent au monde des jeunes qui sont très précoces. Et alors, ces oiseaux-là, ils ont de particulier de mettre au monde des petits qui sont très, très démunis. Et ils n'ont même pas les yeux ouverts, ils n'ont pas de plumes, ils ne peuvent pas s'alimenter. Évidemment, il faut qu'on les nourrisse, il faut qu'on contrôle leur chaleur. Donc, ils ont besoin de beaucoup de soins, tellement qu'une femelle seule n'y arriverait pas. Donc, le mâle est obligé, s'il veut, ça ne lui donnerait rien de quitter la femelle et essayer de commencer avec une autre, parce que ces petits vont mourir. Donc, il doit rester et offrir des soins paternels aux jeunes.
Les oiseaux ont l'esprit de famille et une vie de famille insoupçonnée. De nombreux oiseaux, Gérard Lebouchet.
Alors oui, la plupart des oiseaux, effectivement, comme ça vient d'être dit, ont des comportements de soins biparentaux. On estime qu'il y a environ 80% des oiseaux qui ont des soins biparentaux, ce qui ne veut pas dire que les deux membres du couple font exactement la même chose, mais qu'ils participent tous les deux à plus ou moins, avec une part plus ou moins grande, aux soins aux jeunes. Et donc, ça, c'est pour l'essentiel. Après, ce sont souvent des espèces qui sont monogames. Il y a un couple qui se forme le temps de la reproduction et les deux s'occupent des jeunes. Après, il y a quelques espèces polygames où c'est seulement soit le mâle, ça arrive dans quelques espèces, soit la plupart du temps, seule la femelle s'occupe des jeunes, comme notre poule, par exemple. Et puis, on a aussi des oiseaux qui pratiquent un élevage finalement collectif, c'est-à-dire qu'il y a les parents plus les jeunes des années précédentes qui donnent un coup de main à papa-maman pour élever les jeunes. Alors ça, par exemple, il y a le jet à gorge blanche qui est bien connu des études comportementales, le jet à gorge blanche qui est un oiseau des États-Unis dans lequel il peut y avoir jusqu'à 6 personnes, si j'ose dire, qui s'occupent des petits. C'est-à-dire les deux parents plus les enfants des couvées précédentes.
Et puis, il y a des adolescents chez les corneilles, enfin, je ne sais pas comment le dire, Frédéric Giguet, mais les corneilles ont particulièrement, non seulement l'esprit de famille, mais une vie de famille, puis un foyer, quoi, qui reviennent au foyer, enfin, au nid.
On a la particularité en ville, dans les villes, d'avoir énormément à manger dans les poubelles, ce qui permet aux jeunes de survivre. Donc, on a des gros groupes d'immatures de corneilles, à Paris, par exemple, sans doute peut-être 1000, 2000 jeunes oiseaux qui trouvent à manger facilement et qui restent là en groupe, qui sont tolérés par les autres parce qu'ils sont jeunes. En capturant des oiseaux parmi ces groupes au Jardin des Plantes et en les équipant de balises GPS, et grâce toujours à un oiseau particulier qui avait été, on va dire, sauvé par une dame, posé sur son balcon où elle nourrissait ses parents et les corneilles ont continué à l'élever sur son balcon. Et un jour, cette dame, donc cette jeune corneille a survécu, était avec ses parents, dormait tous les jours dans le jardin devant chez elle, dans un arbre. Et un jour, cette jeune corneille, sa jeune corneille, a des bagues vertes aux pattes. Elle cherche sur Internet, elle découvre qu'il y a un certain Frédéric Giguet, pas loin d'ici, qui les bague. Donc elle me contacte et elle pense que je suis venu chez elle capturer cet oiseau. Je lui dis non, il est venu au Jardin des Plantes. Et je lui propose de l'équiper d'une balise GPS pour savoir ce qu'un jeune de site de naissance connue va faire à l'avenir. Et on se met d'accord, elle ne veut pas trop, elle a peur que ça la gêne. Je dis, si l'oiseau revient dans ma cage, c'est qu'il faut que je lui pose une balise, je le ferai. Et sinon, je ne viendrai pas le capturer près de chez vous. Deux jours après, l'oiseau est dans ma cage, je lui pose une balise et je vais découvrir que pendant tout l'hiver, cette jeune corneille que j'ai capturée en octobre, alors elle peut dormir au Jardin des Plantes ou dans les grands cimetières autour de Paris, mais environ une nuit sur trois, elle retourne dormir avec ses parents, là où elle est née. Et finalement, en regardant les données de toutes les autres jeunes corneilles que j'ai équipées, je m'aperçois que, oui, elles circulent entre les grands points d'alimentation dans la capitale, mais elles ont tout un point de fixation différent où elles retournent régulièrement. Une, ce sera la place des Vosges, une, ce sera Sancier et Daubenton, une, ce sera un peu plus loin à l'extérieur de Paris, j'en ai une en forêt de Sénart, une à Mantes-la-Jolie. Et tous ces oiseaux, à un moment donné, sont partis en dispersion, étaient capturés au Jardin des Plantes, mais continuent à rester, à visiter leurs parents.
Donc on revient au
jusqu'à la fin de l'hiver.
Un peu des tanguis, quoi.
Exactement. Et en fait, ça laisse imaginer qu'il y a des apprentissages, il y a une structure sociale et familiale développée, et sans doute des échanges et des apprentissages qui vont continuer pendant de longs mois après le départ, l'envol du nid.
C'est-à-dire qu'ils apprennent, enfin, les parents apprennent aux enfants, il y a vraiment de la transmission, de l'éducation, de l'apprentissage chez les oiseaux, et jusqu'à un âge avancé, puisqu'ils reviennent encore au nid, ils n'oublient pas leur adresse, ils n'oublient pas leurs parents.
Exactement, ils sont tolérés, donc on imagine que ça veut dire qu'il y a encore transmission, apprentissage, alors peut-être que la plupart est déjà acquis, parce que ces oiseaux peuvent être autonomes en partie, mais en tout cas, les liens familiaux sont encore forts puisqu'ils y retournent. Et on va s'apercevoir aussi avec ces balises que fin mars, quand les parents recommencent un nid, vont recommencer une reproduction, et ben ils vont chasser
les
jeunes de l'année précédente. Et c'est à ce moment-là qu'on a des jeunes corneilles urbaines qui vont partir des fois à la campagne, parfois très loin. J'ai un oiseau, une jeune comme ça, baguée dans Paris, qui a été capturée aux Pays-Bas. Près de Maastricht.
Ah oui, c'est loin.
Donc ça fait 350 km à vol d'oiseau. Et c'est pour montrer un petit peu la distance, la connexion qu'il y a entre tous ces oiseaux à grande échelle spatiale.
Et ceux qui sont chassés du nid reviennent aussi parfois ? Ou est-ce que ça, vous le savez, vous pouvez le détecter ?
Alors ceux que j'ai équipés de balises, non, ils ne retournent pas. La dame dont j'ai parlé tout à l'heure, Alexandra, donc c'est la corneille d'Alexandra dans le livre, elle va me dire « je la revois ». Très rarement, elle tente de revenir, cette jeune corneille.
Qu'elle a élevée, qu'elle a élevée avec les parents corneilles
qu'elle
sur son
vu,
balcon.
Mais qui vient quasiment lui manger dans la main quand elle est là. Elle dit par contre, dès que les parents la voient, ils lui foncent dessus. Donc elle tente de revenir, et on le voit avec la balise GPS, mais elle ne pourra pas revenir de manière durable ou régulière sur le site, et après elle va partir vivre sa
vie. Qu'il y a des pieds. Et comment on a parlé de reconnaissance aussi, ils se reconnaissent, enfin ils se reconnaissent entre eux évidemment, ils vous reconnaissent. Qu'est-ce qu'ils reconnaissent ? Est-ce qu'on a dit ensemble qu'on essaie de se mettre dans la tête des oiseaux, on ne peut jamais y être, mais à votre avis, qu'est-ce qu'ils reconnaissent ? Une tête, une allure, un visage, un corps ?
Ils sont très doués déjà pour reconnaître les voix. Et pour reconnaître des petites variations au niveau, par exemple, des chants ou des voix que nous, ça nous passe par-dessus la tête.
Oui.
Ils peuvent reconnaître aussi, comme ils voient d'autres couleurs, d'autres possibilités comme les ultraviolets, ils peuvent reconnaître des marques, des patchs, des badges qu'on leur congénère. Mais en tout cas, il est certain qu'ils ont une bonne mémoire de ce qu'ils ont entendu, puisqu'on a, dans des expériences sur les Canaries que l'on a faites à Nanterre, on s'est aperçu qu'un chant qui avait été entendu brièvement pendant quelques minutes, les oiseaux pouvaient s'en souvenir trois semaines après. Donc ils avaient bien emmagasiné des informations sur des choses très précises, des choses qui pour nous... un chant de canari et un autre chant de canari, ça se ressemble beaucoup, mais malgré tout, ils étaient un petit peu différents. Et ça suffisait pour que les oiseaux, trois semaines plus tard, s'en souviennent.
Si je vous suis bien, les oiseaux apprennent à chanter. C'est ça,
Alors, en plus,
c'est encore autre chose. Les passereaux, notamment, apprennent
à chanter. Là, ce que je vous disais, c'était sur des adultes qui reconnaissaient les chants de leurs congénères. Mais ils apprennent à chanter. C'est en cela que c'est un bon modèle pour l'apprentissage du langage chez les humains, parce qu'on s'est aperçu au fur et à mesure que pour qu'un oiseau chante le chant de son espèce. Alors, un oiseau peut toujours émettre des sonorités de manière innée, mais ce ne sera pas le chant de son espèce. Le chant de son espèce, il faut qu'il soit avec un certain ordre. Il y a une syntaxe particulière, et puis il faut qu'il y ait les bons éléments au bon endroit.
Les silences aussi.
Pour les alouettes, ce sont les silences qui sont importantes. Et tout ça, ça s'apprend. C'est-à-dire que si les oiseaux... Alors, les premières expériences des années 70 étaient un peu raides. On mettait les animaux en isolement, on leur faisait entendre des bandes sonores. Parfois, on mettait des bouchons d'oreilles pour pas qu'ils s'entendent, etc. Mmh. Et on s'est aperçu que, effectivement, un oisillon qui n'avait pas appris, qui n'avait pas entendu le chant de son espèce, eh bien, était incapable de le refaire correctement. Et donc, ça voulait dire qu'après, il était isolé. Il ne pouvait plus attirer des partenaires pour se reproduire. Il ne pouvait plus défendre son territoire puisque tout passe par le chant. Donc, effectivement, l'apprentissage du chant, c'est quelque chose de très important chez les oiseaux. Et les dernières découvertes, je dirais, c'est que un enregistrement sonore, c'est bien, mais ce qui est important, c'est d'interagir avec quelqu'un de vivant. Et donc, l'apprentissage du chant...
Leur passer de la musique, ça sert à rien.
Ça sert un peu, mais c'est meilleur. Par exemple, chez les diamants mandarins, qui sont beaucoup utilisés dans les laboratoires, eh bien, pour avoir une bonne reproduction du chant du parent ou du tuteur, parce que ça peut être un tuteur quel qu'il soit, il faut vraiment qu'il y ait eu des interactions avec ce tuteur. Et c'est mieux que simplement entendre le chant à voilà.
Il faut interagir avec son tuteur. Alors, nouvelle question pour vous, Gérard Le Boucher, qui parlait presque avec les oiseaux. Question d'une de vos disciples, si j'ose dire, éthologue passionnée par les oiseaux, Agatha Liévin-Bazin, devenue passeuse de science sur sa chaîne YouTube Le Nid de Pie, après avoir mené des recherches sur les oiseaux chanteurs à vos côtés, à l'Université de Nanterre. Voilà sa question à rebrousse-poil ou à rebrousse-plume qu'Agatha nous a laissée pour vous.
Eh bien, coucou Gérard. Moi, j'ai une question un petit peu provocatrice. Est-ce que les oiseaux chanteurs, les canaris, tout ça, largement étudiés à Nanterre, sont d'aussi bons sujets pour étudier l'intelligence des oiseaux que d'autres, comme les corbeaux, clairement?
Votre réponse, Gérard Le Boucher, puis après, je demanderai son avis à Frédéric Giguère.
C'est une réponse en deux temps. D'abord, effectivement, je ne vais pas dire que les corbeaux sont les corvidés soient les derniers de la classe. Au contraire, sont les premiers. Ils ont un rapport tête sur corps qui est important. Donc, c'est important de comprendre l'intelligence des corvidés. Mais si on ne regardait que l'intelligence des corvidés et qu'on disait c'est l'intelligence des oiseaux, on aurait perdu 9999 cas.
C'est beaucoup.
Ça fait un peu des trous dans la raquette quand même au bout d'un moment. Donc, effectivement, il faut apprendre d'autres choses. Il faut apprendre des oiseaux, par exemple, qui s'orientent. Effectivement, l'orientation chez les oiseaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. En plus de leur balise GPS qu'ils ont naturellement, ils sont capables de naviguer. La navigation chez les oiseaux, c'est une preuve d'intelligence, je trouve, remarquable. Il y a la construction des nids.
C'est magique.
Les tisserins, par exemple. Alors, un tisserin est élevé seul, il va avoir envie de faire des nids, mais il va faire des trucs absolument abominables au début. Et puis, petit à petit, par l'apprentissage, l'auto-apprentissage, il va faire des choses qui ressemblent à des nids, finalement.
Et de plus en plus jolis.
Donc, c'est un peu comme un artisan, un apprenti artisan qui referait jusqu'à ce qu'il trouve un petit peu quelque chose de très joli, quoi.
Bon, Frédéric Giguet, qu'en pensez-vous? Si on ne va pas faire la battle entre les corvidés et les autres, ou les perroquets et les autres, mais que dites-vous sur ces corneilles que vous étudiez? Gérard Le Boucher disait qu'il y a un rapport aussi tête-corps qui est important. Enfin, leur intelligence exceptionnelle, mais intelligence avec des guillemets. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple?
Chez les corvidés, ça va être En fait, c'est même assez simple. C'est une des espèces que l'homme aime le moins parce que dès qu'il met en place des stratégies pour éviter qu'on l'embête, ça ne marche pas parce que ce sont des oiseaux qui comprennent et qui s'adaptent.
Qu'on les aime pas trop.
Que ce soit les poubelles, les cultures, je ne veux pas qu'ils viennent là et pof, elles finissent par trouver un moyen, etc. Donc, c'est là qu'on comprend qu'il y a elles sont capables d'appréhender une situation et de s'adapter assez rapidement par leur intelligence, mais aussi de communiquer. Elles vont s'observer mutuellement. Il y en a qui vont apprendre ce que font les autres, le tester et voir que ça fonctionne. Après, pour revenir sur l'intelligence globale ou diverses, les intelligences des oiseaux, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement parce que dans mon métier, alors je ne travaille pas que sur les corneilles, je travaille sur beaucoup d'autres espèces, que j'essaie de capturer pour leur poser justement des enregistreurs pour suivre des migrations, que ce soit de petits ou de grands oiseaux. Alors, il y en a, c'est assez simple. On va les chercher dans le nid, ils ne savent pas encore voler. On pose une balise et dès qu'ils vont se déplacer, on aura les informations. Mais il y en a d'autres, il faut ruser. Il faut essayer de savoir comment ces oiseaux fonctionnent et qu'ils soient petits ou corbeaux. Ça peut parfois être compliqué parce qu'on met en place un piège qui va être repéré, contourné et arriver à se mettre dans la tête de l'oiseau pour anticiper ce qu'il va faire, comment il va réagir. Ça peut énormément aider pour arriver à les capturer, pour mieux les étudier et les protéger.
Il faut que vous nous racontiez comment vous avez réussi à sauver une corneille qui s'était coincée, enfin qui ne sortait plus du métro parisien à la station Ménilmontant, je crois.
À la station Ménilmontant au départ, oui. Alors c'est assez cocasse parce que c'était à peu près au moment où mon livre est sorti et ça permet d'alimenter le discours aussi en disant « Mais vous voyez, il y a 500 000 corneilles tuées en France métropolitaine chaque année pour réduire des dégâts sur les cultures qui ne sont pas réduits. » Et là, on a une corneille coincée dans le métro et une mobilisation de citoyens, des Parisiens, de la RATP, des reportages à la télévision, à la radio.
Pour qui vous dire, a d'ailleurs un peu empêché de travailler, mais ça, c'est encore autre chose.
Pour dire il faut la sauver. Et au bout de 2 mois, on m'a contacté en disant on a tenté plein de choses avec des cages, de la tirer, avec de la nourriture, mais elle doit avoir faim, avoir soif, elle doit souffrir, elle doit être stressée. Et je suis allé voir cet oiseau qui semblait en pleine forme, qui gérait très bien le passage des métros, qui ne se laisse pas approcher par les gens. Dans une station de métro, il y a des poubelles.
Donc il y a à manger.
Il y a à manger. La première fois que j'y suis allé, il y avait des personnes qui terminaient un kebab, qui l'ont jeté dans la poubelle, mais la moitié est tombée par terre, de la viande, des frites. Il y a de l'eau qui ruisselle ici ou là. Alors elle n'est pas très propre, mais comme à Paris. Donc, ce n'est pas un oiseau qui allait mourir de faim ou de soif. Après, ce n'est pas son environnement. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant d'essayer de la sortir de là. Il y avait beaucoup de sollicitations pour justement pouvoir communiquer sur l'ensemble de ses congénères et dire que ces oiseaux méritent de vivre et que quand on les détruit, ce ne sont pas pour de bonnes raisons puisqu'on n'atteint pas les objectifs qui étaient visés. Voilà.
Et il a vraiment fallu vous mettre dans la tête de l'oiseau. Elle n'a pas été facile à coincer pour la libérer en plus.
Elle n'a pas été facile à libérer parce qu'elle connaissait très très bien son environnement. Donc, quel que soit le piège que l'on met en place, elle voit très bien que tiens, aujourd'hui, il y a des gens qui restent et qui m'observent. D'habitude, les gens montent dans le métro, partent, descendent du métro, sortent. Là, j'en ai repéré 3, ils n'arrêtent pas de me regarder, ils font semblant de ne pas me regarder, mais ils sont là. Les métros passent, ils sont toujours là. Ou alors, il n'y a plus de métro, ils sont encore là, il fait nuit. Et ils ont déposé un objet nouveau que je n'ai jamais vu dans le coin là-bas, et dans lequel il y a des super trucs à manger, il y a des frites, il y a un emballage rouge et jaune. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il a fallu essayer de comprendre, de voir comment cet oiseau se déplaçait pour finalement s'apercevoir un soir que l'oiseau empruntait les tunnels la nuit du métro pour changer de station quand il était un peu trop embêté. Et donc, l'idée, ça a été de boucher les 2 tunnels avec des filets pour capturer les oiseaux et ensuite de faire bouger la corneille jusqu'à ce qu'elle se dise « bon, c'est bon ». Donc là, on était passé à la station Parmentier.
Puis, c'est un peu plus loin quand même,
voilà,
oui.
Puis, on avait encore changé de station. On était rue Saint-Maur parce que c'est à Parmentier qu'on l'a vu partir dans le tunnel et aller rue Saint-Maur. Et à rue Saint-Maur, on a pu aller de nuit, faire couper l'électricité sur les rails, boucher les 2 tunnels avec un filet et ensuite faire bouger la corneille qui a fini par se prendre dans un des filets.
Voilà comment vous avez sauvé une corneille du métro parisien. Enfin, corneille qui allait bien, mais il fallait bien qu'elle sorte du métro parisien. Je crois que c'était vers les coups de 3 heures du matin ou quelque chose comme ça. Comment ne pas couper justement les ailes des oiseaux? Comment les laisser s'envoler hors du métro ou pas? Je me tourne vers vous, Gérard Leboucher, et votre choix musical qui s'est porté sur une chanson écrite et interprétée en basque par Ana Etxegoyen. Oui. Alors en basque, ça se dit Egoak, si je ne m'abuse.
C'est ce que j'ai entendu, oui.
Et ça veut dire
Ça veut dire les ailes.
Eh ben, on écoute Egoak, les ailes, sur RFI, on s'envole.
Egoak eba kibandis ki yo neudia isan gosa. Egoak eba kibandis. Thank you.
superbe choix musical, Gérard Leboucher. Alors, je ne connais pas le basque, mais vous m'avez glissé les paroles. Au fond, ne pas couper les ailes des oiseaux, c'est ça?
C'est ça. Moi, je ne connais pas le basque non plus, donc je suis allé rechercher les paroles sur Internet. Et ça dit, oui, il y avait un oiseau. Si je lui avais coupé les ailes, il serait resté avec moi. Ça aurait été le mien pour toute la vie. Mais comme c'était l'oiseau que j'aimais, je n'ai pas voulu lui couper les ailes.
Et donc, les laisser s'envoler, on a parlé des corneilles qui vivent dans Paris, on en continue d'en parler avec Frédéric Giguet. Et puis, on va retrouver Luc-Alain Giraldo, éthologue, dans L'œil du pigeon, qui nous avait raconté il y a quelques années son expérience inouïe qui l'a fait s'intéresser à l'œil du pigeon, précisément.
J'attendais l'autobus, c'était l'automne, il faisait froid, et il y avait des pigeons, comme il y a toujours, des dizaines de pigeons. Mais soudainement, j'ai remarqué qu'il y en avait un qui me regardait. Alors ça, c'était étonnant. Alors donc, moi, je le regardais aussi. Puis on était deux individus dans cette espèce de mélange de béton, de bitume, de machinerie. Deux individus qui se regardaient. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et donc, je me demandais qu'est-ce qu'il regardait. Et il devait se... Je ne sais pas ce que ça pense, un pigeon, mais moi, je le regardais. Et je me suis dit, il n'y a aucun édifice, aucune automobile qui regarde une autre automobile. Et il n'y a que des êtres vivants. Et ça nous a rendus très solidaires les uns des autres. Et ça m'a fait me demander, qu'est-ce qui fait qu'on est vivant, finalement? Qu'est-ce qui nous distingue?
Question, peut-être, que vous vous posez aussi face aux corneilles et autres oiseaux migrateurs que vous suivez, Frédéric Giguet?
Je me suis posé effectivement la question plusieurs fois, mais avec plus l'impression que, alors comme ça pourrait être avec un animal domestique, qu'il y a une certaine confiance qui effectivement peut s'établir. Je raconte dans le livre l'épisode avec Lazare, un corbeau freux.
Extraordinaire Lazare qui est même passé à la télé. Parce qu'il
exactement. Et lors du tournage de cette émission, donc Véronique, avec Lazare, monte d'Avignon à Paris au muséum pour aller dans mon bureau. On prépare l'émission. Son corbeau va faire des tours, entre guillemets, montrer son intelligence, réaliser quelques opérations. Et elle m'avertit, alors voilà, il est très attention, moi il me connaît, il va être stressé, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il apprécie les gens, il va avoir peur, il va se cacher. Et en fait, à un moment donné dans le tournage, le corbeau s'envole et vient se poser sur mon bras. Alors qu'il ne me connaissait que depuis peu, comme s'il se disait, je peux avoir confiance dans cette personne. C'était... quelques années avant le début de mon programme sur les corneilles, mais c'est un petit peu comme si cet oiseau, effectivement, m'avait interpellé, avait senti peut-être que je pouvais aider, être sensibilisé à une certaine cause. Je ne sais pas, mais voilà, il y a parfois
quelque
des
chose qui s'est passé. Et aujourd'hui, vous avez écrit « Vive les corneilles, que vivent les corneilles hein !» Un plaidoyer pour une cohabitation responsable. Gérard Leboucher, quelles questions vous ont fait vous poser les oiseaux auxquels vous avez consacré une bonne partie de votre vie de chercheur?
Je crois que c'est, je dirais que c'est mon regard sur les oiseaux. En particulier sur les animaux en général, qui a beaucoup changé. J'ai 30 années de vie scientifique derrière moi et je pense que la manière dont je regardais les oiseaux, enfin, ou les animaux en général, il y a 30 ans, n'est pas du tout la même que maintenant. C'est-à-dire que j'étais bercé dans une espèce de culture qui voulait que, quand on faisait une expérience, les oiseaux, les animaux étaient dans le matériel et méthode. Déjà, ça veut tout dire. C'est-à-dire que, voilà, on l'aimait, et maintenant, on dit les choses un peu plus, de manière un peu différente. Donc, voilà, on est passé d'un animal que l'on pouvait observer, mais auquel on ne prêtait pas d'intention, etc. On était dans une sorte de déni de toute intelligence de l'oiseau. Il fallait que ça fonctionne de manière mécanique, etc. Et là, effectivement, ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est de comprendre que les oiseaux étaient capables de trouver de l'information, justement l'information publique. Ils sont capables de regarder les autres, de regarder ce qu'ils font et d'agir en conséquence. Et puis, il y a aussi l'idée de... des oiseaux qui font attention à ce qu'ils racontent quand ils se savent entourés de leurs congénères et qui ne se comportent pas de la même façon quand ils sont tout seuls, réellement.
Et quand ils sont entourés des autres.
Voilà.
De quoi, oui, nous faire écho, si j'ose dire. Merci infiniment à tous les deux d'avoir partagé un petit peu de ce monde extraordinaire des oiseaux. Gérard Leboucher, je rappelle le titre de votre livre formidable « Dans la tête d'un oiseau » aux éditions Humaine Science, dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Et puis je vous renvoie évidemment aussi sur l'autre livre génial de Frédéric Giguet, « Vive les corneilles, plaidoyer », un plaidoyer pour une cohabitation responsable à lire absolument aux éditions Actes Sud. Et puis je ne me retiens pas de citer la bande dessinée « La femme corneille, enquête sur le monde caché des oiseaux noirs » aux éditions Futuropolis, sous la plume de Geoffrey Le Guilcher et le dessin « Le crayon magnifique » de Camille Royer. Merci à vous et vous revenez quand vous voulez. On pourrait parler très longtemps encore des oiseaux et laisser nous regarder peut-être. Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup et vive les oiseaux.
Absolument. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditrices et auditeurs, autour de notre table ronde mensuelle avec mes consoeurs et confrères de la presse scientifique. Il y aura, vous le savez, plein de magazines à gagner. Merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert. Et oui, et que. Et vive les oiseaux sur RFI.